Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bienvenue sur CNews, bienvenue dans une nouvelle semaine de 90 minutes info. Les titres, les thèmes de débat, ce sera juste après le point sur l'info avec Audrey Berthaud aujourd'hui.
Danone a signé en justice par des ONG pour pollution au plastique. Plusieurs ONG demandent que la multinationale soit condamnée à planifier une trajectoire de déplastification. Selon elle, Danone figure parmi les 10 plus gros pollueurs plastiques au monde, derrière Coca-Cola ou encore Nestlé. Le trafic de viande de cheval, un nouveau procès s'ouvre à Marseille. Quelques 200 chevaux qui avaient reçu des protocoles médicamenteux ont fini dans nos assiettes grâce à des certificats falsifiés entre 2011 et 2013. Après avoir examiné un premier dossier de ce type, au mois de juin, le tribunal correctionnel de Marseille juge à partir d'aujourd'hui 25 prévenus, dont 8 vétérinaires. Et puis au Brésil, comme vous pouvez le voir, le président Lula a pu reprendre le travail aujourd'hui dans ses bureaux de Brasilia. Hier, des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi des lieux de pouvoir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre avaient repris le contrôle des bâtiments.
Et à la une aujourd'hui, ces questions. Faillite de la police, faillite de l'État. Comment, dans des quartiers de Marseille tenus par des dealers de drogue, des riverains en viennent à faire eux-mêmes de la résistance? Écoutez.
On est à peu près une quarantaine chaque jour. Chaque jour, on se relaie.
Toutes les heures, il y a des bandes qui viennent en plus en renfort. Et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin, pour les dealers. Pour leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre bâtiment.
Il n'y aura pas de journée sans chasse, mais les chasseurs ne pourront plus pratiquer sous l'emprise de l'alcool et devront davantage se former. On va bien sûr s'intéresser à ces annonces qui étaient très attendues de la part du gouvernement aujourd'hui.
La création notamment d'une contravention et également d'un délit pour la consommation d'alcool, il sera aujourd'hui non autorisé de pratiquer la chasse sous un état d'ébriété ou sous la prise de stupéfiants.
Enfin, nous évoquerons à nouveau Noël Le Graët et la polémique de trop. Le président de la FFF qui a eu des propos très polémiques à l'encontre de Zinedine Zidane qui ont été condamnés unanimement. Et malgré les excuses, eh bien, la question de son maintien se pose désormais. On va l'écouter à nouveau hier.
Il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Le Graët.
Je crois que la question en effet de sa place et de la présidence de la Fédération, elle doit être posée.
Ce sont des propos qui sont particulièrement inélégants, méprisants, je trouve insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende du football, de l'histoire du football français, qui est un champion du monde. Il faut peut-être qu'il envisage sa succession.
Voilà le programme. On va en débattre avec mes invités que je vais vous présenter sans plus tarder. Bonjour, Régis Le Sommier.
Bonjour, Nelly.
Je rappelle que vous êtes à la tête de ce nouveau média Omerta que vous avez créé il y a peu de temps avec du contenu documentaire.
Absolument.
Des reportages.
Documentaire international et national. Il y a de tout.
Votre métier.
Et l'investigation aussi. Mon métier, exactement.
Que vous avez étendu à d'autres domaines. Jonathan Sixou est là également.
Bonjour. Nelly.
Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur, dont vous nous avez amené le tout dernier numéro. Vous allez nous en dire un petit mot. Alors la une, c'est arrêter d'emmerder les automobilistes avec une très jolie photo vintage, un peu des années 50 avec une pin-up. Mais il y a quelque chose que vous souhaitiez mettre en exergue dans ce numéro.
Oui, un sujet qui me tient à cœur. Causeur soutient à travers ce numéro une pétition lancée par un simple citoyen, dirais-je, René Monnier, qui veut faire revenir sur son socle la statue de Voltaire que la mairie de Paris a retirée de l'espace public il y a plus de 3 ans parce qu'elle était régulièrement vandalisée. Et la mairie refuse aujourd'hui de remettre la statue, arguant que la pierre de la statue est trop fragile pour résister même à la pluie ou aux fientes de pigeons. Et cette pétition réclame quoi ? La statue originelle qui était en bronze. Ça permettrait d'éviter quoi que ce soit. Ce projet va être déposé en budget participatif dans quelques mois. Mais il y a cette pétition ouverte à tous sur leretourdevoltaire.com. Et c'est formidable. Depuis qu'on a lancé publiquement cette pétition, vous avez aussi bien des intellectuels de premier plan, des académiciens, que des chauffeurs de bus, que des postiers, que des professeurs retraités. Vous avez une quantité incroyable de Français qui se retrouvent dans cette défense de Voltaire. Et ça, c'est admirable. Et j'engage donc tout le monde à le faire. Leretourdevoltaire.com. On peut signer anonymement ou en laissant son nom et qualité pour figurer dans la liste que nous publions. Dans ce numéro de Causeur, il y a les 100 premiers signataires. On en est aujourd'hui aux environs de 2700. On continue.
Eh bien, c'est un beau symbole aussi de République.
Exactement. Ça transcende, c'est un beau message que nous défendons.
Et puis, bien sûr, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, merci de nous avoir rejoints. Et vous aussi, eh bien, vous nous avez apporté votre tout dernier ouvrage qui s'intitule Les hommes en noir, avec comme sous-titre Servir ou faillir. Il y a du bruit dans le studio. Bon, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Servir ou faillir, c'est le sous-titre de votre livre. Oui. En fait, c'est un roman, mais basé sur des faits réels, c'est-à-dire là aussi, hein, votre domaine de compétence, que vous avez exercé à la tête du RAID et vous avez pris un événement qui nous a tous marqués comme référence.
Oui, c'est un roman. Ce sont des faits romancés de l'intervention à la fois au Bataclan et à l'Hyper Cacher, dont c'est l'anniversaire la commémoration aujourd'hui, mais avec une évolution particulière. Le héros principal, ensuite, se fourvoie dans les arcanes politiques. C'est aussi une histoire miroir entre à la fois le héros principal qui est un policier et un djihadiste qui lui aussi va monter les échelons de son côté et ils vont se rencontrer à plusieurs reprises et ils vont faire vaciller à un certain moment les plus hautes instances de l'État.
C'est paru aux éditions Plomb.
Tout à fait.
Allez, on entame le débat. J'aimerais vous soumettre évidemment, soumettre à votre analyse ces images qu'on a tous découvertes un peu dubitatif et en même temps qu'ils nous ont rappelé d'autres scènes. On va y revenir bien largement, évidemment. Ces lieux de pouvoir qui ont été saccagés au Brésil une semaine à peine après l'investiture de Lula. Des centaines de partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Alors, entre-temps, certes, le calme est revenu après plusieurs heures de chaos, mais ça laissera sans doute des traces. Le résumé signé Kinson et puis on en discute ensemble.
Ces militaires prennent position. La Cour suprême du Brésil a ordonné à l'armée le démantèlement de tous les camps bolsonaristes dans les heures qui viennent. Les autorités judiciaires ont lancé les premières investigations pour déterminer les responsabilités de la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels ce dimanche. Le chaos aura duré 4 heures. Par milliers, des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, déferlent sur le temple de la démocratie brésilienne, la place des trois pouvoirs. Peu de résistance sur place, ils réussissent à forcer les cordons de sécurité. Cette vidéo filmée par un ministre brésilien témoigne de la violence de cette invasion.
Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Regardez ce que ces voyous ont fait.
Les émeutiers sont délogés à coups de gaz lacrymogène. Des manifestants qui réclament ouvertement un coup d'état militaire. Plus de 300 personnes ont été interpellées.
C'est une injustice. Il n'y a pas de criminels ici. Nous protestions juste. Nous voulons sauver le pays.
Les pro-Bolsonaro sont convaincus que le pouvoir leur a été volé par Lula. Ce dernier promet la plus grande sévérité.
Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et punies.
Rentré en urgence dans la capitale, le chef de l'État brésilien a chargé l'armée d'assurer jusqu'au 31 janvier la sécurité du district fédéral de Brasilia, dont le gouverneur a été suspendu 90 jours et le chef de la sécurité démis de ses fonctions.
Et nous sommes en ligne avec notre correspondant à São Paulo, Stéphane Darmani. Bonjour Stéphane, quelle est la situation aujourd'hui? Je disais qu'on est revenu au calme. Je crois que Lula est de retour sur les lieux également. Que va-t-il se passer désormais, y compris sur le plan judiciaire?
Oui, effectivement, on est revenu au calme ici. À Brasilia, on a vu un énorme convoi de bus emmener les derniers partisans de Jair Bolsonaro qui campaient sur l'esplanade des ministères depuis le 30 octobre, depuis la victoire de Lula aux élections. Ils ont tous été arrêtés et sont en train d'être conduits en ce moment à la police fédérale. Derrière moi, à São Paulo, ça en prend le chemin aussi dans le plus grand camp de partisans de Jair Bolsonaro de la capitale économique du Brésil. On voit en ce moment la police se concentrer autour de ce campement. Je vois des gens venir déposer des vivres notamment et en train de démanteler leur campement pour l'instant dans le calme, en évitant l'intervention des forces de l'ordre. Le président Lula est actuellement réuni à Brasilia avec les plus hautes autorités de la Cour suprême. pour voir quelles sont les punitions qui vont être appliquées à ces putschistes, ces terroristes, comme on les appelle ici au Brésil, et aussi à ceux qui les ont financés. Et on pense notamment à ces puissants propriétaires terriens, ce lobby très fort ici du monde agricole, qui est entièrement, pratiquement entièrement acquis à la cause du président sortant, Jair Bolsonaro.
Merci beaucoup Stéphane, en direct de São Paulo pour nous aujourd'hui. Régis Le Sommier, évidemment on repense, je le disais tout à l'heure en préambule, au précédent du Capitole américain, c'est pas si vieux, hein, c'était il y a 2 ans. Quoique fait un peu différemment, il y a peut-être un peu plus de violence, c'est peut-être moins impressionnant en termes de masse populaire, mais on était dans le même esprit, ce que c'est révélateur de nos sociétés qui se radicalisent et qui s'accrochent au pouvoir, parce qu'il y a une grogne sociale qu'on n'explique plus.
Alors ce qui est intéressant, c'est que le précédent américain et l'actuel, ce qui s'est passé au Brésil, en fait, ont des similitudes et des différences. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut prendre l'élection dans son ensemble, à savoir que, et là on peut trouver une similitude, à la fois l'élection de Donald Trump a pu être contestée par l'intéressé lui-même, hein. Bolsonaro, faut le préciser, lui n'a pas contesté l'élection. Il a dit à un moment que Dieu simplement le, enfin il a eu des mots quand même très que Dieu était le seul à pouvoir dire s'il devait partir ou non. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de contestation dans les urnes, ni de, on se souvient aux États-Unis de menaces, de oui. Saisies judiciaires dans certains États, etc., qui pourraient retarder le résultat de l'élection. Mais en tout état de cause, dans un cas comme dans l'autre, on avait annoncé Donald Trump largement battu par Joe Biden. Là, on a annoncé Jair Bolsonaro largement battu par Lula. Et en réalité, au final, on se retrouve avec une élection qui se joue dans un mouchoir de poche. Si vous voulez, c'est très important de prendre ça en considération au niveau des partisans des deux camps et des plus radicaux qui considèrent Lula comme un personnage corrompu qui a été l'objet, mais il faut préciser qu'il a été lavé de toutes les accusations et donc il a pu se représenter. Mais en tout cas, pour une frange de conservatrice de l'électorat brésilien, pour eux, Lula, Dilma Rousseff, c'est la gauche et la gauche, c'est la corruption. Et donc il y a toujours cette suspicion. Alors on est à l'âge de l'internet, on est à l'âge en effet où les théories de complot peuvent se répandre très facilement, mais on a un contexte qui a fait que l'élection a été extrêmement exacerbée dans un cas comme dans l'autre. S'attaquer au lieu de pouvoir, évidemment, c'est extrêmement choquant. Le Capitole aux États-Unis, là, la Cour suprême aussi, parce que la Cour suprême, elle a joué un rôle. Donc, en fait, il y a des ressemblances et il y a des mouvements comme ça qui, tout à coup, deviennent incontrôlables. Avec aussi, et ça, je pense que Jean-Michel Fauvergue pourra en parler sur la question le rapport à l'armée, le rapport à la police, qui au Brésil est quand même extrêmement compliqué. Moi, j'ai fait plusieurs séjours au Brésil, toujours été surpris de voir opérer la police militaire immédiatement. Il y a quand même une militarisation de la société qui existe et ça, évidemment, ça a joué dans le sens des partisans de Bolsonaro et peut-être aussi dans le sens d'une absence de sécurité qu'on a vu qui a été un des points faibles qui a permis aux émeutiers de conquérir ces lieux.
Je vous propose d'écouter un spécialiste de l'Amérique latine, Pascal Drou, qui explique les raisons invoquées par les partisans justement de Bolsonaro pour cette invasion.
Durant le mandat de Jair Bolsonaro, il y a eu tout un travail visant à délégitimer les institutions démocratiques et naturellement cette violence renfermée, cette violence intégrée a ressurgi parce que Lula a pris le pouvoir, a affiché des axes extrêmement clairs, a pris le contre-pied total de la politique de Jair Bolsonaro et cela visiblement était absolument insupportable pour les partisans les plus extrémistes.
Alors la question qu'on se pose naturellement, Jonathan Sixou, c'est est-ce que ceci pourrait arriver en France ? Parce que là on parle de sociétés qui sont extrêmement polarisées, fracturées. Alors bon, on a coutume de dire que la nôtre aussi l'est, fracturée. Mais est-ce qu'on pourrait en arriver à de telles énormités, à des actes aussi radicaux ?
Alors il y a plusieurs points. Des personnes radicalisées, il y en a partout, effectivement, et ces personnes radicalisées, quand elles veulent passer à l'action, rien ne les empêche, sauf si vous les privez de liberté en amont et que vous les arrêtez, mais notre droit ne le permet pas vraiment. Ces émeutiers, qu'ils soient brésiliens ou américains, ont bénéficié, Régis le soulignait à l'instant, d'un manque de sécurité assez flagrant. Il y a plus de 3000 policiers et militaires qui gardent le Capitole à Washington. Et vous vous souvenez de cette bande du Luberlu qui sont rentrés comme ça dans... C'est assez surprenant. Là, pareil, on nous apprend qu'il y avait une faille sécuritaire qui me paraît évidente. À Paris, en particulier, où se trouvent les lieux de pouvoir, il y a une sécurité renforcée depuis pas mal d'années du fait des Gilets jaunes. Mais plus précisément, aux États-Unis comme au Brésil et en France, on assiste à quoi ? On assiste à un déni de démocratie. Et en France, c'est qui ? C'est la France insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit que ce qui ne se règle pas dans les urnes se règle dans la rue. Ce sont qui ? Ce sont tous ces élus. Et je pense notamment aux maires de grandes villes qui sont sous la bannière Europe Écologie Les Verts, qui appellent à la désobéissance civile pour telle ou telle situation qu'ils jugent anormale selon eux, alors que ça contrevient parfaitement à la loi. Et donc il y a un terreau, effectivement, en France. Je ne le souhaite pas, ne souhaite pas de voir ce type de spectacle, évidemment, mais souvenez-vous que les violences des Gilets jaunes, des premières manifs infiltrées par les Black Blocs, ont été particulièrement violentes et destructrices. Je pense que nous ne sommes pas non plus alarmés ou créer un climat, mais nous ne sommes pas à l'abri, non. Voilà, pour vous répondre.
Jean-Michel Fauvergue, je vais vous faire commenter ce que disait, ce qu'a signé tout à l'heure Régis, et ça paraît très intéressant parce qu'on a des images justement de ces fameux policiers qui sont dans les rues, déployés depuis hier. Regardez, il y a cet homme-là qui prend un selfie, d'autres qui sont même applaudis à cheval. Voilà, ils ont une réaction peut-être un peu molle et pour cause, parce que voilà, il y a aussi des policiers qui peut-être prennent fait et cause pour un camp ou pour l'autre. Mais parlez-nous plus largement du rôle de la police dans ce pays bien étrange, finalement, qui échappe un peu aux règles qu'on connaît, qu'est le Brésil.
Oui, alors déjà, on est dans un pays fédéral, et vous avez plusieurs types de plusieurs couches, strates de police et de forces de l'ordre qui se superposent de ce point de vue-là. Vous avez les fameuses polices fédérales, que ce soit judiciaire, que ce soit en maintien de l'ordre, que ce soit dans notre domaine, sur le renseignement, etc. Et puis vous avez chaque État qui a une police. Et puis à l'intérieur de chaque État, vous avez aussi des villes qui ont des polices particulières. Quand on parle de police militaire, la police militaire, c'est une police militaire en général locale aussi. Et c'est eux que vous voyez là de manière passive au début de cette émeute-là. Alors c'est vrai qu'on est surpris par le fait qu'il n'ait pas réagi, mais on est d'autant plus surpris que les 40 bus qui ont apporté les émeutiers les ont apportés deux jours auparavant ou une journée auparavant et qui campaient devant les casernes et qu'à minima, les instances du pouvoir auraient dû être protégées par des cordons de policiers en tenue de maintien d'ordre comme on voit ici. Assez rapidement, donc... Peut-être y a-t-il des complicités, l'avenir nous le dira, peut-être ils ont été trop passifs, mais en tout cas, à partir du moment où le président Lula a ordonné que la police fédérale prenne le lead sur l'ensemble des effectifs, eh bien les choses sont allées beaucoup mieux. Les forces de police se sont agglomérées, y compris d'ailleurs avec des forces de sécurité militaire, et les choses ont été reprises de manière d'ailleurs assez sans grand heurts en réalité. Bon, ça gueulait un peu, ça tapait, mais on n'a pas assisté à ce qu'on assiste sur Paris quand il y a eu les Gilets jaunes avec des cocktails Molotov, etc.
Alors j'aimerais juste qu'on voit la réaction. On parlait de Jair Bolsonaro tout à l'heure. Je trouve qu'il était un peu mou dans la condamnation. On va peut-être voir ce qu'il a tweeté. Alors il dit voilà, certes, il fait mine de condamner en disant que tout cela déroge à la règle, mais je trouve que c'est quand même très soft comme manière de dénoncer. Puis il y en a d'autres. Je vous fais réagir. Je vois que vous êtes prêts à intervenir, mais il y a un autre message derrière. Par ailleurs, il dit « Je répudie les accusations sans preuve que m'attribue l'actuel chef de l'exécutif du Brésil ». Bon, il s'exonère un peu de la responsabilité comme un certain Donald Trump en son temps.
C'est d'autant plus cocasse, si vous me permettez le terme, c'est qu'il y a quelques jours, dans la presse brésilienne, la première dame, la femme de Lula, a fait ouvrir le palais présidentiel aux caméras de la télé brésilienne pour montrer dans quel état Bolsonaro et son équipe avaient laissé les locaux. Ça se faisait dans le temps entre les administrations concurrentes qui se donnaient les clés de la Maison Blanche, les clés du Quai d'Orsay, etc. Il y avait toujours on laissait toujours quelques papiers gras dans les tiroirs. Mais là, il y a quelques jours encore, la femme du président brésilien montrait que l'État de vraiment le palais présidentiel avait été en partie pillé, vidé de son mobilier, des locaux avaient été déjà vandalisés par les équipes Bolsonaro. Donc c'est assez cocasse aujourd'hui, si vous voulez, de voir que le président brésilien ça explique aussi peut-être la mollesse que vous évoquiez, Nelly. Oui. C'est la façon du bout des doigts qu'il a de condamner ces manifestants.
Oui. Pour revenir sur le propos de Bolsonaro, là où on voit qu'il y a un peu de la mauvaise foi, c'est quand il fait référence aux émeutes de 2013 et de 2017. Il n'était pas au pouvoir à l'époque. Il faut rappeler que ces émeutes-là, qui étaient en fait effectivement orchestrées par la gauche, il y a eu des manifestations assez violentes devant les ministères, mais aucun des manifestants n'est rentré à l'intérieur des ministères. Donc il y a en effet un précédent, mais en tout état de cause, ce n'est pas de l'ampleur de ce qui s'est passé hier. Donc là, on peut dire, oui, absolument, il s'exonère. Depuis deux jours après son élection, sa défaite, il est aux États-Unis, il s'exonère aussi. C'est une manière de dire, mais il faut reconnaître à la décharge de Jair Bolsonaro, c'est qu'il ne s'est jamais mis hors la loi, peut-être même moins que Donald Trump. Il a toujours été, il a reconnu un peu tardivement, mais il a reconnu les résultats des élections. Et voilà, il n'y a pas chez Bolsonaro, il n'y a jamais eu d'aspect, qui s'écarte de la démocratie.
Allez, on va s'interrompre quelques secondes parce qu'Éric de Rietmatten va nous rejoindre pour sa chronique écho à présent.
Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Alors Éric, la réforme des retraites, on en connaîtra plus demain, mais déjà il y a un gros bazar en vue avec ce qu'on appelle les régimes spéciaux.
Oui, c'est vrai, beaucoup d'interrogations, parce que vous savez, l'État fera tout sûrement pour amoindrir la réforme. Hein. Les régimes spéciaux vont quand même être défendus bec et ongles par la RATP, par la SNCF, par EDF, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même concernés indirectement. Mais est-ce que c'est justifié cette menace de mobilisation de la part des entreprises? Alors je vais vous dire non, parce que finalement, ces régimes spéciaux seront supprimés pour les futurs salariés, c'est-à-dire tous ceux qui vont rentrer à l'avenir ne seront plus soumis à ces régimes spéciaux. Et j'ai calculé que l'effet de la réforme des retraites, si vous comptez 43 ans de cotisation, ça veut dire que ceux qui rentreront dans ces entreprises l'été prochain, eh bien, ils seront concernés finalement. La fin des régimes spéciaux ne concernera ces personnes qu'en 2066. Vous voyez, ils ont 43 ans de travail, donc si vous étiez 43 ans à aujourd'hui, donc ça sera la fin des régimes spéciaux vraiment en 2066. Alors maintenant, tous les futurs salariés ne seront pas touchés parce qu'à la RATP, cela concerne qu'une partie, notamment les conducteurs, les agents de contrôle. Ils ont droit actuellement à partir 10 ans avant le régime général, c'est-à-dire ils peuvent partir à 52 ans. En fait, quand on vérifie, on se rend compte qu'ils ne partent pas à 52 ans parce que leur retraite est très très basse, vous voyez. Alors, la menace à la SNCF aussi, c'est une mobilisation qui ne serait pas fondée, parce que de toute façon, vous savez que depuis 2020, les régimes spéciaux ont disparu pour les nouveaux entrants, donc là aussi, pas de justification. Mais au final, il y a quand même des cas par cas à régler, et c'est là que ça va se compliquer. C'est pour ça qu'on pense qu'il y aura un véritable bazar autour de ces régimes spéciaux qui concernent encore certaines personnes et pas d'autres, sachant qu'il y a la question financière. Hein, ces régimes, quand même, à la RATP, ça coûte 800 millions d'euros par an à la RATP, à l'État, mais pour la RATP, donc il faut quand même les sortir. Comment l'État va faire? Vous voyez, c'est un nouveau casse-tête qui commence. On pose aussi la question pour les militaires, les policiers, les gendarmes, est-ce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps? Toutes ces questions ne sont pas réglées, et ce sera sans doute demain soir qu'on aura les réponses.
Merci beaucoup, Éric.
C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
On reste ensemble dans un moment. Nous parlons de ces riverains dans les quartiers sensibles de Marseille qui font de la résistance eux-mêmes pour tenter d'empêcher les dealers de drogue d'avoir pignon sur rue. Mais ce qui pose aussi la question du maintien de l'ordre, pourquoi la tâche leur revient-elle? À tout à l'heure. De retour avec vous pour 90 minutes info. Avant de reprendre le débat en compagnie de mes invités cet après-midi, je vous propose de retrouver Mickaël Dorian pour son JT. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Lula condamne les violences des manifestants bolsonaristes qu'il qualifie d'actes terroristes. Lula qui a repris le travail, comme vous le voyez sur ces images. Il est de retour à son bureau de Brasilia. Hier, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi et pris d'assaut des lieux de pouvoir. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des bâtiments. Les soignants des urgences de Pontoise alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail. 90% d'entre eux sont en arrêt maladie. Ils demandent des effectifs supplémentaires de jour comme de nuit, ainsi que l'activation immédiate du plan blanc pour libérer des lits, des soignants à bout, comme cette infirmière interrogée tout à l'heure.
Quand je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir parce que je retrouve des patients 48 heures après les avoir inscrits aux urgences, des patients de 95 ans qui pourraient être ma famille, et que quand je dis à un patient que je reviens jamais. Voilà. Que j'ai 40 patients à moi toute seule et qu'on ne peut pas surveiller tout le monde, et que le jour où c'est mon diplôme qui va sauter parce qu'on va retrouver quelqu'un de mort, il n'y a personne qui va venir avec moi au tribunal, et surtout pas la direction. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, on s'est tous mis en arrêt parce qu'on est tous dans la même situation.
Ouverture à Paris du procès en appel du médiateur, près de 2 ans après la condamnation des laboratoires Servier, accusé d'avoir causé la mort de centaines de patients. Le groupe avait écopé d'une amende de 2,7 millions d'euros et avait dû verser plus de 183 millions d'euros de dommages et intérêts aux victimes, des victimes et des familles qui souhaitent aujourd'hui que cette condamnation soit confirmée. C'est ce que nous indique maître Charles-Joseph Houdin, avocat de partie civile.
Alors l'objectif pour mes clients de ce procès d'appel, quand même 6 mois, c'est bien sûr de consolider l'acquis, de faire confirmer ce qui avait été obtenu en termes de condamnation sur la tromperie aggravée, en termes d'indemnité. On va même en demander un peu plus en axant nos débats sur la persistance du déni des laboratoires Servier qui continuent à nier leur responsabilité, ce qui est particulièrement dur à vivre pour mes clients.
Après des mois de débats, la secrétaire d'État à l'écologie dévoile ses mesures pour mieux sécuriser la pratique de la chasse. Le gouvernement écarte finalement l'idée d'instaurer une journée sans chasse, mais souhaite interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool, renforcer la formation à la manipulation des armes et mieux informer le public via une application smartphone. Les chasseurs se disent satisfaits de ces mesures. Écoutez Henri Sabarot, il est président de la Confédération des chasseurs de Gironde.
Si les annonces sont celles que l'on vient d'apprendre, c'est-à-dire pas de jour de non-chasse, contrôle d'alcoolémie, tendre vers des applications numériques, même si ça va être très très compliqué, que ce soit dans la pratique, mais aussi dans la couverture réseau, au nom de mes chasseurs, ça ne va pas changer grand-chose. Au contraire, ça va accentuer notre volonté d'aller vers un débat apaisé, dans le partage des territoires, dans la formation. Donc, parfait pour nous.
Prison ferme confirmée pour Patrick et Isabelle Balkany. Cet après-midi, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée à l'issue d'un procès consacré uniquement aux peines et non à la culpabilité des accusés. Noémie Schulz.
La Cour d'appel de Paris a condamné Isabelle et Patrick Balkany à des peines de prison inférieures de 6 mois à celles prononcées lors du dernier procès, et elle a ordonné la confusion des peines. Alors c'est un peu technique, mais cela veut dire que ces années de prison ne vont pas se cumuler avec celles prononcées pour la fraude fiscale, mais se confondre. Et comme Patrick Balkany a déjà passé plusieurs années en prison et sous bracelet électronique, il ne sera pas à nouveau incarcéré, s'est réjoui son avocat.
Cet arrêt, c'est la fin de l'épisode carcéral qu'a connu Patrick Balkany, que nous défendons. C'est donc une décision qui, sur le plan purement de la privation de liberté, doit être saluée. C'est la fin, on ne reverra plus Patrick Balkany en prison et on doit saluer cette décision. Il va pouvoir profiter de ses vieux jours avec sa femme.
La Cour d'appel de Paris a par ailleurs confirmé la confiscation de l'usufruit du moulin de Giverny. C'est là qu'habitent Patrick et Isabelle Balkany, mais leurs enfants en sont les propriétaires. Alors qu'est-ce que cette confiscation aura comme conséquence? Les avocats des époux Balkany étaient incapables de nous répondre. Ils dénoncent une situation totalement inédite, kafkaïenne, et se réservent d'ailleurs la possibilité de former un nouveau pourvoi en cassation contre ce point précis.
Et puis la polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit. Hier, il était en interview à la télévision pour la promotion de son livre Le Suppléant, qui sort demain et qui fait déjà grand bruit. Harry assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser. On écoute la réaction des Londoniens.
C'est un humain après tout. Ils sont tous humains. Et je pense que les gens l'oublient. On dirait que tout le monde pense que la famille royale appartient au public britannique parce qu'ils sont de la royauté. J'ai l'impression qu'on ne leur donne pas assez de compassion.
Le fait qu'il soit dans cette institution raciste, archaïque, et qu'il s'y soit opposé, je trouve ça incroyablement courageux. Et je pense qu'il a fait quelque chose de vraiment bien.
Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 Minutes Info.
Et à vous aussi, Mickaël, à demain. Merci. On va parler de Marseille avec... ces habitants de la résidence, les Campanules, qui se mobilisent contre l'installation de trafic de stupéfiants. Ils se relaient même jour et nuit depuis plusieurs semaines déjà, ce qui pose la question de la présence sur le terrain de la police. Le reportage est signé Clémence Barbier, avec Mickaël Dos Santos.
Sur ces images, des dealers occupent l'entrée de la résidence des Campanules, une cité HLM du 11e arrondissement de Marseille. Mais les habitants ne tolèrent pas cette présence. Ils se relaient jour et nuit pour éviter de voir un trafic de drogue s'implanter dans leur immeuble.
On est à peu près une quarantaine chaque jour. Chaque jour, on se relaie.
Toutes les heures, il y a des dons qui viennent en plus en renfort, et ce, jusqu'à 2-3 heures du matin, pour les dealers, pour leur bloquer l'accès, pour pas qu'ils pénètrent dans notre bâtiment.
Ces habitants, qui veulent rester anonymes, espèrent inciter d'autres cités marseillaises à se mobiliser.
On est vraiment les premiers à faire cette opération et on espère donner l'exemple dans d'autres cités, si ça peut éradiquer les trafics de drogue.
C'est vraiment une action coordonnée entre les services de l'État, la ville de Marseille, et ce n'est pas aux habitants de se défendre. Ils l'ont parfaitement fait de manière pacifiste et heureusement d'ailleurs, mais demain, il ne faudrait pas qu'il y ait un débordement.
Pas de dealers chez nous !
Hier, les habitants ont manifesté dans leur quartier. Le bailleur social de la résidence promet de son côté d'instaurer un dispositif de sécurité exceptionnel.
Jean-Michel Fauvergue, alors un, c'est déjà très courageux de leur part, hein, parce qu'on imagine que c'est pas facile de tenir comme ça sa cage d'escalier quand on sait que les autres sont en embuscade et potentiellement pour beaucoup armés. Mais deux, pourquoi on en arrive à ça, quoi ?
On en arrive à ça parce que, d'une manière globale, on a un vrai problème de condamnation et d'application des lois. Je pense que dans notre pays, on est arrivé à un moment où la justice, qui doit réguler tout ça. Vous parliez tout à l'heure de la police. Effectivement, la police, qu'elle soit municipale, nationale, la gendarmerie nationale, font des patrouilles, ils sont présentes sur le terrain, mais ne peuvent pas être présentes H24. Et de toute façon, à partir du moment où elles sont présentes, elles font des arrestations. Si le dealer revient après parce qu'il a été libéré, on a un vrai gros problème. Et la problématique, à mon avis, elle vient de là. Elle vient d'un manque d'application des lois et d'un manque de fermeté dans ce domaine-là. Et quand, à l'intérieur d'un pays, une justice faillit, on ne peut appliquer l'ensemble des lois. Alors aujourd'hui, vous avez des habitants qui se mobilisent là-dessus. C'est pas la première fois. Je voudrais vous signaler que il y a pas si longtemps que ça, il y a des habitants qui ont même mené une enquête suite à une agression. Vous avez une vieille dame octogénaire dont le mari a été agressé, qui était octogénaire lui aussi, qui a donné un coup de couteau à son agresseur. L'agresseur était dans un état grave. Et puis vous avez aussi de plus en plus, je le mets sur le même plan, de plus en plus de policiers qui sont agressés par des refus d'obtempérer et qui ouvrent le feu. Alors, ce phénomène-là est très limité, mais il s'accélère. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est passé dans une société où l'ensemble de la population ou des organisations, eh bien, sont en train de réagir elles-mêmes parce qu'il n'y a pas cette réaction de la justice, cette réaction et essaye de reprendre le terrain de même. Alors effectivement, c'est dommageable, hein, je vous le garantis.
C'est dingue.
D'autant
qu'on a mis le paquet sur Marseille quand même.
Oui, hein,
ça
oui,
avait
oui.
été fait. Vous vous souvenez, un grand renfort de communication de la part de Gérald Darmanin qui nous parlait des.
Bien sûr, mais
points de deal qui étaient visés.
Bien sûr, mais la bataille des batailles dans l'avenir, la mère des batailles, ça doit être la bataille contre les stupes. Pourquoi ? Parce que les stupes gangrènent toute la société et apportent sur la voie publique de la criminalité de voie publique sur lesquelles il faut travailler.
Certes, mais enfin Darmanin, un premier flic de France, en a fait son cheval de bataille.
Oui. Avec des résultats, mais qui ne sont pas suffisants.
Bah, visiblement, là, c'est quand même le contre-exemple. Bah,
disons que le problème qu'on rencontre, alors là, on voit en effet des habitants se dresser, et ils sont extrêmement courageux. Il faut saluer parce que ça peut leur coûter de se retrouver face aux dealers potentiellement esselés au moment de rentrer dans leur cité, parce qu'on sait qu'à Marseille, il y a eu, on s'en souvient très bien, des checkpoints qui avaient été mis en place par les dealers, qui demandent les pièces d'identité aux gens pour prouver qu'ils habitent dans la cité. Il y a eu, souvenez-vous, avec le drame de Vaux-en-Velin, il faut quand même le rappeler, une dizaine de 10 morts, le trafic de drogue, deux jours plus tard, continué, il s'était juste déplacé d'à peine 100 mètres. Et les témoins qu'on essayait, je me souviens, c'était sur CNews, on essayait de parler aux gens. Les gens avaient peur, ils se cachaient derrière des capuches, on demandait et exigeait que leur voix soit changée. Donc il y a une véritable terreur qui est. Donc là, que des gens se dressent contre cette terreur, c'est louable, c'est remarquable. On a vu également, à Stalingrad notamment, des habitants prendre des mortiers d'artifice pour essayer de chasser les dealers. C'est arrivé. Donc, de plus en plus, il y a ce réflexe de prendre en main les choses parce que peu de choses sont faites. Et je rajouterai sur la question du trafic de stupes, c'est en effet le problème principal. C'est, il faut rappeler les chiffres, 3 milliards d'euros d'économies parallèles par an, dont la moitié concerne le cannabis. Donc c'est un pactole énorme, pactole qui, dans certaines cités, draine l'ordre social. C'est-à-dire que ce sont les dealers qui sont au sommet de la pyramide et qui créent l'ordre social dans la cité. Et c'est là où il y a un problème, parce que en effet, il y a un manque d'autorité et un manque d'État, finalement, dans ces cités.
Écoutons la réaction d'un représentant de syndicat policier sur place.
On peut malheureusement le regretter, hein, parce que c'est dangereux pour ces citoyens de s'exprimer ainsi, mais on peut aussi les comprendre. En revanche, parallèlement, et vous l'avez dit, et je vous en remercie, la police fait son travail, on a des résultats intéressants, mais quand je dis des résultats intéressants, vous imaginez que c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, on demande beaucoup d'effectifs. Encore, même s'il y a eu des efforts de fait, même si Marseille a été renforcée, même si la police fait son travail correctement, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut voir dans quelles conditions on rentre dans les quartiers. C'est vrai que c'est très difficile pour nous, on est en danger bien souvent. C'est pour cette raison que d'ailleurs on avait demandé un renfort d'effectifs pour déjà nous travailler en protection.
Oui, il parle bien, on sent bien tout le désarroi de ce que vous décriviez à l'instant. Sur ce plateau, Jonathan Sixou.
C'est exactement ça. D'abord, reconnaître le courage de ces hommes et de ces femmes, mais ça n'est pas la solution. Et la solution, elle passe d'abord par le constat qui est un aveu d'échec. Des policiers qui sont visés comme des lapins dès qu'ils rentrent dans certains quartiers, des policiers qui n'ont pas forcément tous les moyens, qui donnent tout ce qu'ils peuvent, mais qui n'arrivent pas au résultat escompté. Vous arrivez à cette situation qui n'est pas la solution. Pourquoi aussi ? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bavure, d'un lynchage. On peut imaginer tous les dérapages possibles. Moi, ça me fait penser aussi un terrible retour en arrière. Il y avait du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, ce qu'on appelait notamment à Paris les milices bourgeoises, qui étaient de simples sujets organisés, qui la nuit patrouillaient parce que l'État ne déployait pas assez de policiers et d'hommes de loi, d'ordre, dans l'espace public. Et donc, ces milices, par quartier, s'organisaient. C'est un terrible retour en arrière d'apprendre tout cela. Et vous disiez que Gérald Darmanin a mis le paquet à Marseille. Oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des milliards et des milliards, puisque maintenant chaque plan se compte en milliards. Pour quel résultat ?
Il doit y en avoir quelques-uns à la marge, mais le problème, c'est la reconstitution des
Il y en a, et Jean-Michel le rappelait tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur.
Allez, en quelques mots, parce que vraiment, il faut qu'on avance.
C'est tellement énorme. Je vous rappelle simplement l'interview du procureur de Paris dans Le Monde il y a quelques semaines, où elle mettait en garde les Français et les responsables français sur un narco-État et sur l'infiltration des réseaux des narcotrafiquants dans des institutions. Ça peut être localement, la police, la justice, etc. Et ça, c'est très grave. Okay.
Mais est-ce qu'il faut lutter contre les points de deal, sachant qu'ils se reconstituent, comme l'hydra sans tête, hein, y en a un qui disparaît, 10 autres qui apparaissent, avec des enfants de plus en plus jeunes en plus, l'appât du gain, tout ça. Ou est-ce qu'il faut vraiment remonter la filière partout, encore plus haut, mais il n'y a pas de volonté politique.
Il faut lutter partout. Il faut lutter sur le terrain et il faut lutter sur les filières, parce qu'effectivement, les filières font énormément d'argent là-dessus et qu'elles elles investissent dans l'économie propre et elles sont en train de polluer cette économie propre. Donc il faut travailler là-dessus. Et les banques, là-dessus, j'ai fait une tribune avec Katia Burier, qui était une spécialiste sur le blanchiment de cet argent. Il faut qu'on travaille là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on travaille sur le terrain en amont de ce que peut faire la justice et qu'elle ne fait pas pour l'instant. Il faut qu'on travaille sur le terrain avec tous les acteurs. Et les acteurs, c'est la police nationale, gendarmerie nationale, la police municipale, les acteurs privés de sécurité, informés. Alors, on ne demande pas aux gens d'aller sur le terrain, mais informés par les populations, c'est important.
Et on referme cette page avec le son de la préfète qui s'est exprimée aujourd'hui.
Nous y serons jusqu'à ce que ce point de deal soit définitivement démantelé.
Nous avons déjà des précédents que nous avons traités avec succès ailleurs dans d'autres quartiers de Marseille sur des installations de points de deal auxquelles nous avons mis fin rapidement. Je ne dis pas que le combat est facile, je dis simplement que nous avons les moyens d'y faire face et de le faire en concertation avec les habitants, avec les élus, avec les bailleurs. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc, au Camp à Nul, moi, je suis très confiante sur le fait qu'on va éliminer ce point de deal. Et puis surtout, on va continuer à le faire partout ailleurs à Marseille.
Et voilà qui clôt cette partie du débat. J'aimerais revenir à cette image que vous avez sans doute vue apparaître sur les réseaux sociaux. C'est cette photo qui a beaucoup fait parler d'elle, puisqu'on peut y voir une personne avec un maillot du Toulouse Football Club floqué au dos. Mohamed Merah, avec le chiffre 7. C'est une provocation. Et ça a évidemment suscité un tollé sur les réseaux sociaux, mais également de la part des institutions et puis évidemment le club directement concerné. Thibaut Marcheteau.
C'est samedi dernier que la photo est apparue sur Twitter. Un maillot du Toulouse Football Club, floqué du nom du terroriste qui a tué 7 personnes en mars 2012, provoquant une vive réaction sur les réseaux sociaux. Le club toulousain a également réagi.
Une photo d'un maillot du TFC au flocage abject et honteux circule sur Twitter. Le TFC s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance et affirme que le dit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club.
La communauté juive, touchée par cet attentat en 2012, où Mohamed Merah avait fait plusieurs morts, dont des enfants, à proximité d'une école de confession juive, s'indigne.
Évidemment, ça rappelle des plaies qui sont encore largement ouvertes. C'est une image qui est terrible et surtout, finalement, qui pose des questions. Évidemment, c'est un acte, on a vu le communiqué du club de Toulouse, qui est a priori un acte isolé, mais pour autant qui vient dire quelque chose, à mon avis, de la banalisation de cet acte terroriste qui a eu lieu dans la société française en général.
Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte ce dimanche par le parquet de Toulouse.
Il a raison, Jonathan Sixou, il y a une banalisation qui fait qu'on pense que faire quelque chose comme ça, c'est une provocation, mais banale, bénigne.
Je le crains fortement. Je le crains fortement. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une banalisation de la part dans toute une frange de la jeunesse qui n'est pas, selon moi, des terroristes en puissance et des djihadistes ou quoi que ce soit, mais qui sont totalement, soit par bêtise, soit par ignorance, soit les deux, et de toute façon instrumentalisés par d'autres qui sont, eux, plus habiles que pour ça, pour le pouvoir leur faire porter, par exemple.
Ils sont contents de prendre le contre-pied, de provoquer, quoi.
Bon, il y a une part de... Je n'imagine pas que cet individu qu'on voit de dos, là, avec ce t-shirt horrible, abject, il n'y a pas de mot assez fort pour condamner ça, évidemment. Mais je ne veux. Alors peut-être que je pêche par naïveté, mais je ne pense pas que ce crétin qu'on voit de dos soit un tueur en puissance. Et je pense que ça révèle la confusion absolue des esprits. Et je crois que le mot confusion est un maître mot qui explique beaucoup de nos mots AUX dans cette société, parce qu'on mélange tout. Par ignorance, par bêtise aussi parfois, disons-le, mais l'ignorance joue une part considérable. Quand vous savez, quand vous apprenez que beaucoup de la majorité des jeunes s'informent, par exemple, uniquement via les réseaux sociaux et que le canal d'information principal, c'est TikTok, ça vous donne un peu la mesure de ce qu'ils peuvent construire comme raisonnement et comme réflexion, si on peut encore parler de réflexion intellectuelle.
Propos très mesuré que ceux de Jonathan à l'instant, vous les partagez entièrement. Il y a beaucoup de parts de bêtises et pas seulement de l'affichage ou comment dire de la propagande djihadiste en soi.
Non, moi je m'interroge ce qui s'est passé dans la tête de ce personnage, parce que c'est pas simplement on prend un t-shirt, on met un marqueur Mohamed Merah, qui a quand même construit,
il a été
le faire floquer.
Au point que le Toulouse Football Club dit c'est pas nous.
Attention, c'est pas nos boutiques. Donc il y a quand même toute une démarche pour aller jusqu'à cette provocation. Ouais. Il y a aussi dans l'idée que, en effet, je partage le fait que, à mon avis, cette personne n'a pas de visée djihadiste, mais plus de provoquer, ou justement de dire, c'est une sorte de défi ou quelque chose. Et en effet, il y a cette confusion, on mélange tout, mais on va toujours vers le plus transgressif. C'est-à-dire qu'on sait que là, on va toucher quelque chose. On sait qu'on va réveiller des plaies. On sait qu'on va blesser des gens. Et il y a cette volonté. Et en plus, ce qui est assez effrayant dans le genre de comportement, mais on le retrouve sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une lâcheté infinie. Il est de dos. On peut pas le. Alors peut-être qu'on peut éventuellement l'identifier, mais en tout cas, il est de dos, il n'apparaît pas de face. Et là, on est aussi dans un des mots de notre époque, c'est cette espèce de volonté de nuire, mais à visage masqué, sous pseudo, ouais. Ou sans montrer son. Voilà, c'est là-dedans où c'est quand même très dérangeant, c'est-à-dire qu'on fait ce genre de provoque, mais on les fait sans risquer grand-chose. Quoi,
en fait. Ouais, enfin après, c'est quand même passible de poursuite.
Bien sûr, apologie du terrorisme.
Qu'il soit poursuivi et qu'il soit condamné, hein, je parle.
Oui, non seulement lui, non seulement lui, faire, mais
celui qui a fait le
celui t-shirt, qui a fait le t-shirt, etc. Oui, ouais, c'est la crétinisation. Je reprends les mots de Jonathan, c'est la crétinisation à l'état pur. Vous savez, moi, juste après votre émission, je vais à Vincennes, à la porte de Vincennes, pour la cérémonie du cachet qui s'est passée, comme vous le savez.
C'était vos hommes, vous étiez
oui.
en charge.
Avec un jeu, il a l'air absolument jeune, ça a l'air d'un adolescent. Que des adolescents réagissent de cette manière-là, c'est difficile à comprendre. Il faut véritablement. Alors, je veux bien croire, comme le disait Jonathan, que c'est sans doute pas un terroriste en herbe, etc. Mais cette manière de provoquer, il le sait qu'il provoque, puisqu'il se cache, effectivement, et on le voit pas de face. Cette manière de provoquer, à un certain moment. On peut peut-être relier ça à ce qui s'est passé au Brésil, etc. On a de plus en plus des tas de gens qui sont en train de, et dans la jeunesse en particulier, qui sont en train de délégitimiser tout, y compris le souvenir.
Allez, on va s'interrompre à nouveau et nous reviendrons pour parler de la chasse. Alors, le gouvernement a tranché. Il n'y aura pas de journée sans chasse, finalement. Donc, les chasseurs, on l'imagine, sont très soulagés. Mais attention à l'alcoolémie. Ce sera plus sévèrement sanctionné. C'est peut-être un aspect que certains d'entre nous, d'entre vous, découvriront à propos de ce loisir. Mais c'est évidemment inhérent aux risques et aux accidents mortels qu'on a pu voir aussi l'année dernière, notamment. Hein, on s'en souvient, deux assez retentissants. C'est sans doute dans ce sens que la décision a été prise. On sondera l'un des principaux concernés après une petite pause. De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre show, de notre émission. Après, le rappel des titres d'Audrey Berthaud à nouveau.
Ils avaient annoncé un janvier noir. Les biologistes sont à nouveau en grève à compter d'aujourd'hui et pour une semaine. Toujours en conflit avec l'assurance maladie et le gouvernement qui veulent leur imposer de faire des économies. Certains biologistes libéraux ont décidé de fermer leur laboratoire. 8 ans après la prise d'otage de l'hypercacher, une cérémonie est organisée ce soir à 18h30 en hommage aux 4 victimes tuées le 9 janvier 2015. Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Atab et François-Michel Saada. 3 cérémonies ont déjà eu lieu ce week-end en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo et aux 2 policiers tués par les djihadistes. Enfin, la polémique autour des révélations du prince Harry se poursuit. Il a fait la promotion de son livre, Le Suppliant, hier soir à la télévision. Harry a donné 2 interviews, une sur une chaîne britannique, une autre sur une chaîne américaine. Il assure que ses mémoires sont nécessaires et qu'il n'a aucune intention de blesser la famille royale britannique.
Je n'avais pas prévu d'en parler, mais juste parce que ça m'interpelle, ça m'intrigue un peu. Ça vous passionne la vie de Harry et Meghan ou franchement vous vous dites tout ça pour ça?
Je lis les titres, mais je lis pas les papiers concernant concernant tout cela. Mais c'est je comprends qu'il y a un intérêt réel, du c'est moins outre-Manche, pour ça, oui.
Pourquoi? Parce que le people, voilà, ça fait toujours rêver.
Bah parce que vous avez parce un mélange.
Il y a les histoires de famille, c'est le cocktail parfait.
Mais vous avez affaire à une histoire de famille, certes, mais on parle de la famille royale. Faut pas oublier que la famille royale, même si c'est une monarchie constitutionnelle, joue un rôle quand même. Tout à l'heure, vous avez passé le son d'une Britannique qui ne porte pas la couronne dans son cœur, on l'a bien compris. Mais il y a aussi beaucoup de Britanniques pour qui c'est le cas. Et donc, je pense que, enfin, je le conçois. Et ensuite, c'est le feuilleton, effectivement, qui peut passionner dans les chaumières. Mais de vous à moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Et entendre cet individu nous dire qu'il est choqué parce que son frère l'a plaqué au sol durant une dispute ou qu'il a bravement tué 25 avants.
Enfin, je veux dire.
On s'en fout.
Ouais. Il y a un côté un peu indécent, un peu impudique.
De sa part, moi, je ne le jugerai pas. Oui, en effet, il y a beaucoup de ressentiment. On sent très bien, même s'il dit qu'il veut blesser personne. Il n'a pas écrit ce bouquin pour rien. Non, j'ai passé 25 ans à Paris Match de ma vie, donc j'ai pas mal scruté la vie de ces gens-là. Je vous avouerai que quand on devait faire les titres, parfois, alors la famille royale anglaise, il y avait toujours un truc, mais souvent, ce n'était pas très, très intéressant, enfin, de mon point de vue. En revanche, je suis toujours surpris de voir à quel point les autres sont intéressés par ça. Je vois autour de moi, il y a une série sur Netflix en ce moment sur Harry et Meghan. Et effectivement, c'est regardé, on en parle,
donc
c'est
débattu. Donc apparemment un peu creuse quand même, on n'apprend pas grand-chose.
Il n'y a rien à dire.
Le temps de cerveau disponible, comme disait Jacques Sebeyella, est assez important. Quand il est consacré justement à ces futilités, est-ce qu'on peut appeler ça des futilités, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent.
Je ne sais même pas si j'ose vous poser la question.
Alors, pareil que Jonathan et Régis.
Pareil, d'accord, merci. Voilà, comme ça on peut balayer les champs. Et vous allez voir que ce n'est pas stupide d'avoir fait une petite digression par la famille royale, parce qu'on sait que ce sont des chasseurs, et c'est. C'est le sujet, vous voyez, on essaie toujours de retomber sur nos pieds. C'est le sujet qui nous intéresse à présent, puisque le gouvernement, je vous le disais, a tranché au grand dam du camp anti-chasse. Il n'y aura pas de journée sans chasse, mais attention, il ne faudra pas pratiquer sous l'emprise de l'alcool. Clémence Barbier nous résume les grandes annonces de ce matin.
C'est à Dry, dans le Loiret, que la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, a présenté son plan pour une meilleure sécurité de la pratique de la chasse. L'objectif est de tendre à zéro le nombre d'accidents, a martelé la secrétaire d'État. Pour cela, l'État veut renforcer la remise à niveau des chasseurs tous les 10 ans, déjà mise en place, mais avec cette fois-ci un volet pratique, avec notamment un maniement des armes. L'autre mesure est l'instauration d'un délit d'alcoolémie avec une limite fixée à 0,5 g par litre de sang, un peu comme cela se fait pour les automobilistes. Et dernière mesure, la création d'une application qui recensera les zones chassées, ce qui permettra aux promeneurs d'être informés si une battue est en cours. À noter que le dimanche, ce jour non chassé, n'a pas été retenu. Selon la secrétaire d'État, ce jour n'est pas plus accidentogène qu'un autre jour de la semaine. Le président de la Fédération nationale des chasseurs avait été convié ce matin à ce point presse, mais il a décliné l'invitation.
Bonjour Guillaume Desenfants, merci de nous rejoindre. Vous êtes porte-parole de la Fédération française de la chasse. J'aimerais évidemment avoir votre première réaction sur le contenu, les grandes lignes. Il y a des choses, j'imagine, qui trouvent quand même votre assentiment, enfin qui recueillent votre assentiment aujourd'hui, non ?
Oui, bonjour. Je précise juste que je suis directeur de la communication de la Fédération des chasseurs de Gironde, qui est la plus importante de France. Donc, je ne me permettrai pas de parler au nom de la Fédération nationale, bien entendu. Alors, effectivement, ce plan chasse, plan sécurité à la chasse, qui vient d'être dévoilé, nous semble être un plan pertinent, efficace et surtout pragmatique vis-à-vis de la sécurité à la chasse.
Alors, quand même, la contravention, là, hein, pour alcoolémie, ça va dans le bon sens. Il fallait quand même réguler un peu tout ça parce qu'il y avait des excès. Vous attendiez quand même à ce qu'il y ait des mesures un petit peu plus coercitives.
Non, écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde s'émeut de constater que l'alcoolémie pourrait être aujourd'hui sécurisée autour de cette fameuse contravention. Vous n'êtes pas sans savoir que, effectivement, la police, la gendarmerie ont tout loisir de pouvoir, sur la voie publique, contrôler l'alcoolémie. Et il est bien évident que les chasseurs seront tout à fait à même de répondre aux questions concernant l'alcoolémie sans aucun problème, puisque pour venir sur leur lieu de chasse et pour en repartir, ils doivent, comme vous le savez, respecter ce taux d'alcoolémie.
Bon, le fait qu'il n'y ait pas de jour de chasse supprimé, ça c'est votre grande victoire aujourd'hui ?
Je ne sais pas si on peut parler de victoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, pour nous, c'était un peu un casus belli. Il était hors de question qu'on cède sur ce point, sachant que 85% de la forêt française est privée. Vous imaginez bien qu'il était difficile d'interdire aux propriétaires fonciers, d'interdire la chasse, interdire ici dans notre département, par exemple en Gironde, à des personnes d'un certain âge d'être à la Palombière le dimanche sans poser de problème. Il n'y avait aucune possibilité pour nous d'accepter sur ce sujet. Je ne sais pas si il faut parler de victoire. La victoire, la seule victoire qui concède, c'est celle sur la sécurité. Et on entend bien mettre en place les mesures qui ont été dévoilées aujourd'hui.
D'accord. Dont la formation, la manipulation des armes, ça c'était quelque chose qui pêchait un peu dans le dispositif actuel.
On peut pas dire ça parce que vous savez, depuis déjà un grand nombre d'années, les fédérations, au travers de la formation au permis de chasser, ont déjà une manipulation des armes. Nous allons mettre en place évidemment ces mesures de façon un peu plus pragmatique. Nous avions déjà, notamment dans la fédération de Gironde, des formations pour les directeurs de battue qui incluaient évidemment la manipulation des armes. Et aujourd'hui, toutes les règles qui ont été édictées, les 14 environ, ont une résonance finalement dans les fédérations et au sein des équipes de chasse.
D'accord. Restez avec nous. Hein, on va faire participer nos invités en plateau et vous réagissez à ce qu'ils vont dire parce que peut-être que certains ne seront pas tout à fait d'accord ou n'iront pas dans le sens de ce que vous préconisez. Régis, est-ce que Régis de Sommier, un grand adepte de la chasse, non mais est-ce que vous comprenez ? Est-ce que finalement ces annonces sont à minima ou elles ont quand même une certaine résonance aujourd'hui ?
Bah, je suis surpris de l'annonce sur l'alcoolémie parce que je pensais que, qu'on mette une limite. Oui, c'est évidemment absolument. Moi, je pensais quand même que la plupart des chasseurs n'étaient pas alcoolisés. Bon, visiblement, il devait y avoir un problème parce que pour que ce soit soulevé. Donc, j'espère que ce problème sera réglé. Maintenant, la chasse, on peut en avoir une. Moi, je ne suis pas hostile, je ne suis pas chasseur. J'ai déjà participé à des chasses, mais je n'ai jamais tiré sur des animaux. J'ai trouvé ça très instructif dans le contact avec la nature et le contact avec le monde sauvage. Mais je sais aussi que ça peut être dérangeant, notamment les dimanches, quand vous avez une chasse autour de vous, vous êtes à la campagne et qu'il y a une chasse, ça fait beaucoup de bruit, ça peut être dangereux quand vous allez promener dans les bois.
Vous savez qu'il va y avoir une appui pour les promeneurs aussi,
ça fait partie des annonces. Non mais ouais. Dire que le dimanche est quelque chose de tout à fait est un jour ordinaire, non, c'est pas vrai. Souvent les chasses ont lieu le dimanche. Alors moi je suis pas pour creuser être anti-chasse ou pro-chasse, mais je pense qu'il y a un respect mutuel et ça peut être il peut y avoir un volume et ça peut créer quand on va se balader dans les bois, qu'on est en famille, une certaine anxiété quand on est avec des enfants.
Guillaume, voilà. Des enfants, peut-être première réaction à ce que vous venez d'entendre, parce que je vous vois dans mon écran de contrôle, je vous vois à distance réagir, opiner du chef parfois à ce que dit Régis Le Sommier.
Opiner. Oui, absolument. Opiné. On comprend, si vous voulez, le sentiment d'insécurité, mais il s'agit d'un sentiment. Aujourd'hui, si on regarde de façon assez pragmatique les chiffres liés à l'accidentologie, on s'aperçoit, sur les chiffres absolument objectifs, puisqu'ils viennent de l'Office français de la biodiversité, on s'aperçoit, d'une part, concernant l'alcoolémie, que l'ensemble des accidents qui ont eu lieu, et malheureusement des décès qui ont eu lieu, dans aucun de ces accidents, l'alcool n'était mis en cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on comprend ce sentiment d'insécurité. Toutefois, aujourd'hui, il faut reconnaître que sur l'ensemble des accidents qui ont été relevés par l'Office français de la biodiversité, l'accidentologie a quand même baissé de plus de 70% en 20 ans, notamment en ce qui concerne les accidents mortels. Et donc, on tend vers le zéro, comme le disait Madame la Ministre. Nous allons évidemment encadrer encore mieux, encore plus. Et Régis Le Sommier parlait à l'instant de ce partage de la nature. Il faut savoir que nous sommes déjà en contact avec les fédérations françaises de randonnée, d'équitation, les marathoniens, tout un tas de sports de loisirs de nature également, avec lesquels nous avons les meilleurs discours. Nous faisons des réunions régulièrement pour nous entretenir sur les parcours, pour nous entretenir sur nos activités réciproques. Et aujourd'hui, je crois qu'à la Fédération nationale, comme dans les fédérations départementales, les liens sont tissés depuis bien longtemps déjà avec ces associations.
Je crois que 78% quand même des Français étaient favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche. C'est quand même assez important. Finalement, ça n'a pas été retenu, en tout cas, ça n'a pas été pris en compte dans la décision. Ça vous surprend ?
Ça ne me surprend pas vraiment, et je pense que c'est même très positif. Pourquoi ? Parce que la chasse, ça n'est pas uniquement aller chasser dans une forêt en Sologne. Il y a aussi des spécificités régionales, et par exemple la chasse dans le Var est fondamentale pour gérer les populations de sangliers qui font des ravages. Et sur certains versants du massif des Morts notamment, vous avez le droit de chasser toute l'année pour pouvoir empêcher ces sangliers, pour réguler ces populations de sangliers. Et ça marche, ça prend du temps, mais c'est une façon naturelle de le faire. Je dis naturelle, pourquoi ? Parce que les sangliers tirés sont mangés par les chasseurs, par les voisins. Un deuxième point, pourquoi ? Ça ne m'a pas franchement étonné, cette mesure et ces absences de contraintes dures. Parce que si vous regardez depuis le début de son quinquennat, même premier quinquennat, Emmanuel Macron respecte cette tradition. l'abolition de la chasse. Et tous les chefs d'État qui ont toujours voulu un peu draguer cet électorat ont souvent, après leur élection, pris des mesures plus contraignantes. Là, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et juste un petit conseil de lecture, si vous avez le temps après cette émission, c'est Noël à Chambord, un petit roman qui est sorti il y a quelques années d'Émilie Lanez et qui parle de ce Noël à Chambord qu'Emmanuel Macron avait passé juste après son élection avec les chasseurs, en famille. Et ça montre bien les rapports qu'il y a entre le président de la République et ces défenseurs d'une grande tradition.
Jean-Michel Fauvergue, rapidement, une petite réaction. Dans quel camp vous situez-vous en termes entre contrôle et perpétuer?
Moi, je suis dans le camp de celui qui essaye d'interdire le moins de choses possible. Mais là, ce qui m'intéresse... par-delà, effectivement, l'alcoolémie qui nous semble tellement évident. Ce qui m'intéresse, c'est quand même le fait de pouvoir avertir les uns et les autres, qu'il y ait des échanges de manière à ce qu'il y ait le moins d'accidents possible. Ah oui. Et il ne vous a pas échappé aussi que la première ministre italienne a réintroduit la chasse aux sangliers parce qu'elle était interdite. Et les sangliers allaient jusque dans les villes, ils faisaient beaucoup de dégâts. Et moi, je viens aussi, je connais bien les Pyrénées-Orientales, je ne suis pas chasseur, mais j'ai une partie de ma famille qui l'est. Et là-bas, les sangliers aussi font d'énormes dégâts. Et donc, il faut réguler. Et
les chevreuils sont des nuits.
Oui, oui. Et je signale aussi que certaines fédérations de chasse participent évidemment à la préservation de l'environnement et replantent quelquefois des arbres.
Juste un dernier tweet que je vais vous montrer. Je vais faire réagir notre invité. C'est un tweet de Sophie Taillé-Pollion pour les écologistes. Le gouvernement refuse un jour sans chasse et cède encore au lobby. Elle vous pointe du doigt. Nous le répétons, le dimanche doit être réservé aux promeneurs et aux familles. De toute façon, nous sommes d'accord, Guillaume Desenfants, qu'on vous réconciliera jamais avec cette formation politique.
Bon, écoutez, nous, on n'est pas dans un esprit ni revanchard, ni guerrier, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est dans la discussion, dans l'échange, dans le partage qu'on pourra trouver des solutions. Et aujourd'hui, je rappelle aussi, je vous l'ai dit en introduction, que 85% du territoire est privé, qu'il reste encore largement 15% du territoire, dont les forêts domaniales, dont tout un tas de territoires sur lesquels les promeneurs, les ramasseurs de champignons, bref, tous les utilisateurs de la nature peuvent encore se promener. On va voir un petit peu ce que donne cette application. Doit-elle s'appliquer plutôt aux territoires qui ne sont pas chassés, plutôt que de dire n'allez pas là, il y a des chasseurs, ça peut être dangereux. Disons plutôt allez dans ces endroits-là, vous trouverez la possibilité d'aller vous balader sans aucun problème, sans avoir les nuisances, qu'elles soient sonores ou autres, si ça vous dérange.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre participation en direct. Il nous reste quelques minutes pour aborder notre tout dernier thème. On ne pouvait pas l'éviter. Ça a été un peu la saga de cette fin de week-end. Parlons évidemment de Noël Le Graët. Il a enchaîné les déclarations scandaleuses au sujet de Zinedine Zidane. Et il s'est attiré les foudres de nombreuses personnalités. Alors du sport, bien évidemment, mais même cette histoire a pris une ramification éminemment politique quand même depuis hier. Alors entre-temps, bien sûr, il s'est excusé. Mais vous allez voir, le mal semble quand même être fait à l'aune des propos qu'il a tenus. Imagine d'aller.
Après sa sortie médiatique, Noël Le Graët rétropédale et s'excuse auprès de Zinedine Zidane dans un communiqué adressé à l'AFP.
Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu.
Interrogé dimanche sur RMC sur la reconduction de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France et non sur le choix de Zinedine Zidane, Noël Le Graët s'est montré méprisant à l'égard de ce dernier.
Zinedine Zidane, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club.
Des propos qui déclenchent dans la foulée une levée de boucliers, à commencer par Kylian Mbappé sur Twitter.
Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça.
La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'empresse elle aussi de réagir.
Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zidane, s'il vous plaît.
Des propos qui fragilisent encore les relations entre le président de la Fédération française de football et la ministre des Sports. Déjà mise à mal après les sorties polémiques de Noël Le Graët lors du Mondial au Qatar, notamment sur le sort des travailleurs migrants.
Jonathan Sixou, je sais. Non, mais c'est pour ça que je m'adresse à vous. Je sais que vous n'êtes pas un grand fan de la Coupe du Monde. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas avoir de réaction sur ce sujet. Est-ce que ces heures sont comptées et il faut du renouvellement à la tête de la FFF?
Moi, j'étais en train de me dire que c'est un peu notre prince Harry à nous.
Il n'a pas écrit de bouquin.
Il n'a pas encore écrit ses mémoires, mais attendez, parce que ça va venir.
Il est là jusqu'en 2024, donc après, il aura tout le temps.
Il aura tout le temps.
Sauf si par moment.
Ouais. Écoutez, de ce que je sais, du peu que je sais de ce monsieur, il a une réputation qui n'est pas très sérieuse en privé. Et sans aller plus loin, d'autres journalistes l'ont raconté, notamment dans les pages de SoFoot, sur la façon dont il a le peu d'hygiène de vie que cet homme aurait. Donc il est tenu des propos qui sont franchement pas sympas, c'est évident. Mais bon, est-ce que on lui en veut parce qu'il a attaqué une icône, parce que il a mal parlé, mais il n'a pas insulté Zidane. C'est pas élégant du tout, j'en conviens. Mais
enfin, j'en ai rien à secouer, c'est un peu familier pour ça.
Familier. Vous avez entièrement raison. Je trouve que ça prend des proportions assez énormes. Soyons clairs, c'est pas beau, c'est pas élégant, surtout de la part d'un responsable.
Mais des proportions trop énormes.
Mais okay, c'est
un avis.
C'est disproportionné.
Je suis pas sûr que les autres le partagent. Jean-Michel Fauvergue, vous vous êtes dit, il dépasse les bornes, une icône pareille.
Déjà, j'apprends qu'il est là jusqu'à 2024, il peut encore faire des dégâts jusqu'à 2024.
Voilà.
Première chose. La deuxième chose, honnêtement, je m'y connais peu en foot, mais je m'y connais un peu en chef et en manager. La première des choses qu'on apprend quand on manage et quand on dirige, et il dirige une grosse fédération, c'est que quand on a des réflexions à faire, des choses à dire, on les dit en tête à tête et en face à face, mais ça demande un peu de courage aussi, quoi. Donc du coup, un personnage comme ça, là où il est placé, ne devrait pas dire ça, surtout, enfin de tout le monde d'une manière générale. Ouais. Mais là, on est face aussi à un grand joueur. Qui de son côté aussi ne s'est pas gêné pour mettre quelques coups de tête aussi. Hein. Donc, voilà ma position. S'il avait un peu de courage, il l'aurait d'abord pris au téléphone et ensuite peut-être en tête à tête.
Alors, je vous propose d'écouter les réactions politiques. J'en parlais tout à l'heure que ça a suscité, puis je me tourne vers vous.
Ces propos sont d'un mépris confondant. Je pense en plus que c'est pas le moment. On sort d'une Coupe du Monde où on a bien bataillé. Et je trouve que c'est en dessous de tout et qu'il est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Le Graët.
Je crois que la question en effet de sa place et de la présidence de la Fédération, elle doit être posée. Elle doit d'abord être posée aux adhérents qui ont renouvelé leur confiance à Noël Le Graët.
Ce sont des propos qui sont particulièrement inélégants, méprisants, je trouve insultants à l'égard d'un joueur qui est une légende du football, de l'histoire du football français, qui est un champion du monde. Il faut peut-être qu'il envisage sa succession.
Oui, il n'y a pas photo, c'est unanime.
Ouais. Oui, c'est unanime. Mais ce qui est assez... je ne suis pas sûr que l'inverse ait pu exister. C'est-à-dire que là, on a le patron de la fédération qui se lâche un petit peu contre... Visiblement, il y a quelque chose entre lui
et
un contentieux personnel. Donc ouais. Qui, en effet, comme disait Jean-Michel, devrait se régler au téléphone ou en tête-à-tête. Mais Zinedine Zidane, en effet, a eu ce geste il y a longtemps, et c'était sur le terrain,
2006.
Mais il ne s'est jamais illustré lui-même par des propos insultants ou des petites piques jamais. Envoyées ou des tweets de travers. On n'est pas dans des affaires... Alors, il y a des joueurs qui ont été beaucoup plus explosifs que lui, et lui, au contraire, ça a toujours été le self-control, la mesure, et puis le travail. C'est ça, Zinedine Zidane. C'est comme ça qu'il a été excellent sur le terrain, et ensuite que c'est devenu un super manager. Donc là, je trouve qu'il y a un décalage entre ce règlement de compte un peu bas et puis la personnalité de Zinedine Zidane, qui, en effet, est un joueur... extrêmement brillant et qui fait partie de la
France. On n'oublie quand même pas que
France,
c'est le joueur qui nous a ramené
absolument.
Hein, la première étoile sur un maillot français.
Voilà.
Franchement, venu de... ne serait-ce que pour ça, un président de fédération ne devrait pas dire ça. Brésil, quoi. Voilà.
Bon. Avec tout le reste de l'équipe. Hein.
Vous aurez compris, je suis fan.
C'est un merveilleux joueur.
Ok. Bien sûr. Allez, c'est la fin de cette émission, mais ça m'a fait plaisir de vous recevoir et d'avoir aussi votre avis sur cette petite polémique. On n'a peut-être pas fini d'en parler tout à fait, parce que voilà, il y aura peut-être des renouvellements. En tout cas, Didier Deschamps, a priori, il reste jusqu'en 2026. On verra après.
Oui.
Et dans un instant, c'est Punchline que vous retrouverez avec Laurence Ferrari. Je suis ravie de vous avoir accompagné tout au long de l'après-midi. Nelly. Excellente fin d'après-midi. Je remercie David Poujol qui m'a aidé. C'est mon chef d'édition. Il m'a aidé à préparer cette émission comme chaque jour avec, de manière très précieuse. Allez, à bientôt.